Notre priorité, c'est de confier cette arme, cet Iron Man, aux États-Unis d'Amérique.
Je suis Iron Man. L'armure et moi ne faisons qu'un. Contrairement à ma réputation, je sais exactement ce que je fais.
L'un des super-héros les plus connus et les plus rentables aussi aujourd'hui. Iron Man est orphelin. Repose en paix, Stan, je te dois tout, a écrit sur Twitter Robert Downey Jr., qui interprète l'homme de fer dans les films. Stan, c'est Stan Lee, le mythique dessinateur de bande dessinée, mort hier à l'âge de 95 ans après avoir laissé à la culture populaire Iron Man donc, mais aussi Spider-Man, les X-Men, Hulk ou encore Black Panther. Bonjour Xavier Fournier.
Si je peux me permettre, c'était un scénariste, pas un dessinateur.
Ah bah voilà, vous commencez par me dire les quelques imprécisions dans ma présentation. Vous êtes auteur de Super-Héros, l'envers du costume aux éditions Fantasque. À chaque fois que vous ouvrirez un comic book, Stan sera là, écrit Marvel aujourd'hui dans un communiqué. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la vérité ?
Ça dépend des comic books, mais parce qu'il y en a qui sont plus ou moins directement influencés par ce qu'il a fait, mais c'est clair que ça a été l'un des architectes de la maison, donc à partir de ce moment-là, tous les gens qui lui succèdent dépendent de lui.
Qu'est-ce qu'ils ont, ces super-héros qu'il a inventés, Stan Lee ? Pourquoi ils sont encore aussi connus, aussi identifiables par tous ?
Ils sont attachants. Les héros édités et scénarisés par Stan Lee dans les années 60, la presse américaine avait surnommé ça les héros à problème. C'est-à-dire que c'est pas simplement des personnages avec des super pouvoirs, mais c'est des personnages avec des talons d'Achille, qui à chaque fois sont poignants, qui ont un pathos, qui parlent de handicap soit physique ou de handicap sociaux.
Pas parfait en fait, c'est ça qui fonctionne.
Voilà, c'est ça.
Et aujourd'hui encore, ça fonctionne toujours. On parlait d'Iron Man qui marche toujours très bien au cinéma, ça parle toujours aux jeunes générations.
À l'évidence, oui, bien sûr, ouais. Même si ça s'est un peu déplacé, et qu'il y a ce que j'appelle le complexe de James Bond, c'est-à-dire qu'il y a toute une population qui consomme ces personnages-là sur grand écran plutôt que dans les comics, mais ça descend quand même descend de la gouaille de Stan Lee, qui était un dialoguiste de génie et qui avait donné à ses personnages vraiment un phrasé très particulier.
Donc un dialoguiste et pas un dessinateur, hein, on fait bien la distinction.
Voilà, parce qu'il faut un scénariste et un dessinateur pour faire le travail, et lui était plutôt dans le domaine des mots.
Rendons à chacun effectivement ce qui lui appartient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces créations, elles n'ont pas besoin de leur créateur pour continuer à vivre ?
C'était déjà le cas avant, parce qu'à 95 ans, Stan Lee, même s'il venait faire des petites apparitions sympathiques au cinéma, ça faisait des décennies qu'il n'avait pas vraiment écrit de scénario. Il a participé à quelques projets, mais où, on va dire, il était à la base de l'inspiration, et c'est pas lui qui s'occupait d'écrire les lignes ces dernières années. Donc les héros Marvel au niveau opérationnel quotidien ne travaillait plus avec Stan Lee dans la vie de tous les jours. Par contre, l'esprit Stan Lee, finalement, il survit dans ces personnages-là, il va continuer de travailler.
C'est quoi l'esprit Stan Lee, justement ?
On en a parlé tout à l'heure, il y a d'abord ce côté de l'imperfection qui finalement lui a donné une pertinence à travers toutes les années 60 et 70. Ce modèle de super-héros, il s'y prête énormément, parce que c'est un super-héros qui est pas parfait, donc qui tombe à pic quand l'Amérique doute du Vietnam, quand il y a l'affaire du Watergate et des choses comme ça. D'un seul coup, on n'est plus dans le drapeau américain triomphant, et ces personnages-là sont pile au rendez-vous de l'histoire. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que Stan Lee a eu une grosse présence, a vraiment fait de la lutte contre le racisme le fil rouge de la fin de sa carrière chez Marvel. Indépendamment, même au-delà de Marvel, il avait créé une fondation qui voulait lutter justement contre les différences. Et donc, dès les années 60, là où les autres éditeurs de comics étaient plutôt, assez distancés sur ces questions-là, vers 68-69, Stan Lee, c'est quelqu'un qui fait non seulement beaucoup d'éditos, beaucoup de rédactionnels pour ces personnages-là, pour ces questions-là, et qui porte son empreinte sur toute l'industrie des comics après.
Qui sont les héritiers aujourd'hui, hein ?
Alors, vous voulez dire dans les comics ou en dehors des comics ?
Dans les comics ?
Le principal héritier du Trésor de Guerre, c'est Disney et Marvel Studios, j'ai envie de dire. Parce que les personnages, maintenant, sont pensés par rapport au cinéma. Il y a sans doute, vous écoutez tout à l'heure parler des problèmes de succession de l'héritage de Hallyday, il y aura sans doute une bataille à prévoir là-dessus, sur non pas les personnages de Stan Lee, parce que les droits sont très identifiés, mais sur l'image même de Stan Lee, parce que ça fait déjà quelques années que différentes sociétés qui ont digitalisé l'image de Stan Lee se bagarrent un petit peu avec la famille pour savoir qui aura les droits de l'image de Stan Lee après sa mort.
Merci beaucoup pour toutes vos explications, Xavier Fournier. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Super-héros, l'envers du costume, c'est aux éditions Fantasque.